À Minneapolis, le corps médical et les autorités de santé publique doivent faire face à une terrifiante épidémie. Les premières victimes sont des enfants, puis des adultes sont frappés à leur tour. Les autorités sanitaires doivent identifier l'agent pathogène et remonter à la source de l'infection. Tant que le mystère n'est pas résolu, nul n'est à l'abri de la menace invisible. Dans l'émission qui suit, certains noms ont été changés. Le 8 août 1998, à 4 heures du matin, Marilyn Miller est réveillée en sursaut par les cris de son fils.
What's the matter, honey? Come here. Let's see. Oh my gosh, come on. Get you to the bathroom. Come on, sweetie.
Billy, 8 ans, est victime de terribles douleurs abdominales. L'enfant est brûlant de fièvre. Il doit être soigné sans délai.
Okay, you'll be fine.
Il ne s'agit pas d'un banal accès de fièvre infantile, mais de quelque chose de plus grave. Billy perd conscience. Ses parents l'emmènent sur le champ dans un hôpital de Minneapolis. Quand ils arrivent à l'urgence, l'enfant est gravement déshydraté. La douleur irradie dans tout son abdomen. Pour le docteur Mitchum, médecin de garde, une appendicite est peu probable. Elle soupçonne immédiatement une intoxication alimentaire.
When was the last time he ate? I don't know, I guess last night he had chicken and some pasta, vegetables.
Le docteur Mitchum demande aux infirmières de faire analyser le sang et les selles de l'enfant.
We're going to need to admit him for observation for a few days. When we get the test results back this evening from the blood tests and the stool samples, we should have more of an idea of what's making him sick.
Okay.
We'll take care of you, fella. We need a bed, please. We'll take good care of you and get you better here, okay?
Les analyses révèlent la présence de sang dans les selles de Billy. Cela indique une hémorragie intestinale, peut-être provoquée par une bactérie d'origine alimentaire. Les prélèvements sont cultivés dans diverses solutions glucosées et placés en incubateur. S'ils contiennent des bactéries, celles-ci vont se multiplier dans les 24 heures. Tant qu'ils ne disposent pas des résultats, les médecins ne peuvent administrer à Billy un traitement trop actif. En présence de certaines bactéries contenues dans la nourriture, les antibiotiques peuvent entraîner des complications très graves. Billy est mis sous perfusion pour combattre la déshydratation et reçoit des médicaments contre la fièvre. Rongé d'angoisse, ses parents ne peuvent qu'attendre.
Medic 21 dispatch, we're en route to Fairfield Memorial.
Le lendemain matin, une ambulance est appelée dans une banlieue de Minneapolis. La petite Skylar Hartman, 4 ans, est gravement malade. Depuis 12 heures, elle est prise de vomissements et d'une diarrhée sévère. Sa température est montée à 40 degrés.
Hi, Dad. Okay, what we got here?
Four-year-old man.
À l'arrivée à l'urgence, le pouls de la petite fille bat faiblement et sa tension artérielle chute.
Nausea, vomiting. Nonsense, she's gotten progressively worse over the last couple of hours.
Okay, let's get her in this bed.
Got an IV established, normal saline. I gave her a fluid bolus to try and get some fluids
in. All right.
One, two, three.
Lung sounds are clear.
Les médecins craignent qu'elle n'entre en état de choc. S'ils ne parviennent pas à stabiliser sa tension artérielle, ses organes risquent de cesser de fonctionner. Ses symptômes sont similaires à ceux de Billy Miller. Les médecins prescrivent une analyse de sel et un bilan sanguin complet. Au laboratoire, les résultats d'analyse de Billy sont prêts. À la suite d'une réaction chimique, une des solutions glucosées a viré au rose. Cela fournit aux médecins la réponse qu'ils attendaient. Il s'agit de Shigella, une dangereuse bactérie véhiculée par la nourriture. La Shigella est un organisme unicellulaire qui s'attaque à l'appareil digestif. La bactérie pénètre dans les cellules de l'intestin, provoquant une inflammation hémorragique. La maladie porte le nom de Shigellose. Le docteur Naimi, épidémiologiste au Centre de contrôle et de prévention des maladies d'Atlanta, nous en parle.
La Shigella peut provoquer une infection extrêmement grave. Les patients souffrent de fortes diarrhées, parfois sanguinolentes, de vomissements sévères, souvent accompagnés de fortes fièvres et d'une déshydratation importante. Chez les sujets très jeunes ou très âgés, elle peut entraîner de sérieux problèmes de santé.
Sans traitement, la Shigella peut migrer dans le système circulatoire, provoquant un état de choc qui peut conduire à un arrêt des fonctions vitales. Le lendemain, l'état de Billy continue de se détériorer. Redoutant une défaillance fatale, les infirmières le surveillent en permanence. Marilyn Miller, la mère de Billy, tombe malade à son tour. Elle présente des symptômes analogues à ceux de son fils. La douleur qui lui déchire les entrailles fait soupçonner également une shigellose. Une coïncidence semble peu probable. Le docteur Mitchum craint d'être en présence d'un début d'épidémie. Elle adresse les Miller au bureau de la santé du Minnesota. Julie Wicklund, épidémiologiste, est spécialiste des infections intestinales d'origine bactérienne. Elle veut savoir ce que Billy et sa mère ont mangé depuis 4 jours.
Souvent, les gens croient qu'ils sont tombés malades après avoir mangé dans tel restaurant ou consommé tel aliment, généralement le dernier qu'ils ont mangé. Mais cela peut être ce qu'ils ont mangé plusieurs jours auparavant qui les a rendus malades.
Ces derniers jours, les Miller ont pris plusieurs de leurs repas dans des restaurants. Julie Wicklund se demande si l'un d'entre eux n'est pas contaminé. Ce même après-midi, la petite Skylar Hartman est toujours brûlante de fièvre. Les cultures de sel confirment les soupçons des médecins. Skylar est également atteinte de shigellose. Pour la seconde fois en quelques heures, Julie Wicklund reçoit un message d'alerte. C'est à elle de déterminer s'il existe un lien entre les deux cas. En prenant note de ce que la petite Skylar a mangé depuis 4 jours, elle fait une constatation importante. 3 jours plus tôt, les Hartman, comme les Miller, sont allés chez Angela's, un restaurant de Minneapolis. Si un restaurant local est contaminé par la Shigella, il faut agir vite. Le docteur Craig Hedberg supervise l'unité des maladies d'origine alimentaire.
Le pronostic vital peut être en jeu. C'est donc une maladie infectieuse grave et préoccupante. La shigellose peut aussi se transmettre d'une personne à l'autre.
Les agents de santé se mobilisent. Ils se rendent tout d'abord chez Angela's, le restaurant où les deux jeunes malades ont pris récemment leur repas. Ils font équipe avec des fonctionnaires chargés de contrôler les établissements de restauration et de leur délivrer des autorisations. Les enquêteurs soupçonnent que le foyer de la maladie se trouve quelque part dans l'établissement. Mais il ne sera pas facile à retrouver.
Une partie de notre enquête consistait à fureter dans les moindres coins et recoins du restaurant, à inspecter la cuisine, à discuter de la préparation des repas et à examiner la provenance des aliments.
Les enquêteurs contrôlent la température des congélateurs et réfrigérateurs. L'agencement de la cuisine et les méthodes de préparation répondent aux normes sanitaires. Contrairement à beaucoup de bactéries alimentaires, la shigella n'est pas véhiculée par les produits animaux. Les humains sont, pour ainsi dire, son unique vecteur. La bactérie peut aussi vivre dans l'eau. Les agents de santé recueillent des échantillons à des fins d'analyse. Ils réunissent le personnel de l'établissement. La plupart des épidémies de shigella dans des restaurants sont dues à un employé chargé des préparations culinaires qui s'est mal lavé les mains.
Quand on voit des intoxications alimentaires liées à la shigella, elles sont provoquées par des préposés aux préparations culinaires eux-mêmes infectés par la bactérie. Ils en ont un peu sur les mains, elles pénètrent dans les aliments et contaminent les clients.
Les enquêteurs interrogent un par un les employés du restaurant. Certains déclarent avoir souffert de symptômes pouvant correspondre à une shigellose. Ils saisissent ensuite la liste des réservations et les reçus de cartes de crédit de la semaine précédente. Le restaurant a servi près de 400 couverts cette semaine-là. Tous les clients risquent de contracter la shigellose. Lorsqu'un employé se révèle porteur de shigella, les responsables ferment le restaurant. En août 1998, des habitants du Minnesota sont frappés par une infection bactérienne d'origine alimentaire. De nombreuses personnes sont atteintes de shigellose après avoir mangé dans un restaurant de Minneapolis. L'épidémiologiste Julie Wicklund doit maintenant déterminer combien de clients ressentent des symptômes de shigellose. C'est un travail de fourmi et il faut faire vite. La shigellose est une maladie extrêmement contagieuse. Elle peut se transmettre par une simple poignée de main et il suffit de quelques bactéries pour contaminer une personne. Julie Wicklund fait venir un groupe d'étudiants pour lui prêter main forte. Tous les clients du restaurant sont soumis à un questionnaire détaillé pour savoir quels sont leurs symptômes et quand ils se sont déclarés. Les agents de santé découvrent que la maladie s'est déjà largement propagée. Sur les 400 clients, plus de la moitié présentent des symptômes de shigellose. Le bureau de la santé les enjoint de se soumettre à des analyses de sel. Plusieurs employés du restaurant se révèlent également porteurs de la bactérie. Cela tend à confirmer qu'un préparateur en cuisine est bien à l'origine de la contamination. Mais une analyse plus poussée des données conduit les enquêteurs à une constatation étonnante. Beaucoup de clients sont tombés malades avant les employés. Ces derniers ne seraient donc peut-être pas à l'origine de la contamination.
On a alors pensé que les employés n'étaient probablement pas responsables, mais eux aussi victimes de la contamination.
Si le responsable n'est pas un employé, alors c'est sans doute un aliment contaminé servi par le restaurant. Le personnel nettoie la cuisine de fond en comble et jette tous les stocks de nourriture.
C'était presque chaotique. On essayait tout à la fois de coopérer avec le restaurant pour prévenir de nouveaux cas, de s'assurer que les employés préposés aux préparations ne seraient pas contaminés, d'informer le public de la situation et de remonter à la source de l'infection.
Le restaurant devra se soumettre à une inspection sanitaire avant de pouvoir rouvrir ses portes. Les employés contaminés ne pourront retourner travailler qu'à condition de présenter un certificat médical attestant de leur guérison. Tandis que les agents de santé essaient de repérer la source de l'infection, l'état de la petite Skyler Hartman s'aggrave. L'infection fait rage dans son petit corps. Les enfants, particulièrement fragiles face à l'infection, risquent de sérieuses complications. Les médecins craignent que Skyler ne développe un syndrome d'urémie hémolytique. Cette complication très grave peut entraîner le blocage des reins. Ils redoutent aussi que la bactérie pénètre dans l'appareil circulatoire de la fillette. Si l'infection gagne son sang, elle risque la mort. Une semaine plus tard, une seconde flambée de shigellose se déclare dans une banlieue du nord de la ville. Tara Parker, une enseignante de 33 ans, est malade depuis plusieurs jours. Victime d'une violente fièvre accompagnée de délires, elle est gravement déshydratée. La déshydratation provoque une chute de sa tension artérielle. Les ambulanciers tentent de la stabiliser par tous les moyens. La jeune femme présente des symptômes alarmants. Elle souffre de crampes abdominales et d'une sévère diarrhée, ce qui suggère une intoxication alimentaire. Le bureau de la santé du Minnesota est immédiatement alerté. Le week-end précédent, Tara a mangé chez Baxter's, un restaurant chic. Deux jours plus tard, ses amis et elle sont tombés très malades. C'est le second restaurant du Minnesota à être touché en une semaine. Les analyses de sel de la jeune femme confirment la présence de Shigella.
Le fait que deux foyers soient apparus presque en même temps, mais dans deux lieux géographiquement éloignés, était inhabituel. Nous nous sommes demandé s'il existait un lien entre les deux.
Les agents de santé entreprennent d'identifier les victimes du second restaurant. On interroge les malades sur ce qu'ils ont mangé la veille. On leur prescrit des analyses de sel. Chaque jour, le bureau de la santé enregistre de nouveaux cas. On en recense bientôt plus de 300 à Minneapolis. Les agents s'efforcent de trouver un point commun entre les deux foyers. Ils dressent un tableau comparatif des plats consommés respectivement par les clients malades et ceux en bonne santé. Les résultats sont surprenants. Il n'existe aucun aliment qui ait été consommé exclusivement par les clients malades. Aucun des employés n'a travaillé dans les deux restaurants. Et les deux établissements sont alimentés en eau par des réseaux distincts. Pourtant, les agents de santé persistent à soupçonner l'existence d'un lien entre les deux foyers d'infection. Les analyses de laboratoire permettront d'en savoir plus. Avec son équipe, le docteur Dave Boxrood, bactériologiste, identifie la bactérie pathogène. Il doit ensuite comparer les souches provenant des deux foyers d'infection. Les prélèvements sont d'abord traités pour isoler la bactérie. Ce minuscule rectangle de gel contient de l'ADN concentré de Shigella.
Toutes les bactéries contiennent de l'ADN exactement comme les humains. On peut comparer les échantillons grâce à l'ordinateur et savoir ainsi s'ils ont ou non la même structure génétique.
Les bactéries provenant des échantillons de chaque patient sont comparées entre elles grâce à un test appelé électrophorèse sur gel en champ pulsé, ou PFGE. Ce test permet aux chercheurs de déchiffrer et comparer l'empreinte génétique de chaque échantillon de Shigella. Le gel est d'abord immergé dans une solution aqueuse et soumis à un courant électrique qui provoque la fragmentation de l'ADN. Puis, il est placé sous un éclairage ultraviolet. En traversant l'ADN de la Shigella, les rayons ultraviolets produisent une représentation visuelle du code génétique de la bactérie. Les deux souches de Shigella ont un matériel génétique identique. Cela signifie qu'elles ont la même origine.
Dès qu'on a découvert que deux restaurants situés dans des endroits différents de l'État avaient été simultanément contaminés par la même souche d'une bactérie alimentaire pathogène extrêmement rare, on a compris que l'infection n'était sans doute pas d'origine locale. Bien que le Minnesota soit un État à forte vocation agricole, la plupart des produits frais qu'on y trouve viennent d'ailleurs. On en a déduit qu'un certain nombre d'États avaient dû être touchés aussi. Ça a été une prise de conscience brutale.
Un même foyer bactérien est donc à l'origine de la contamination des deux restaurants. Le Minnesota est la proie d'une dangereuse bactérie et la source de l'épidémie est encore un mystère. En 1998, la Shigella, une dangereuse bactérie d'origine alimentaire, contamine des centaines d'habitants du Minnesota. Les autorités sanitaires ont pris toutes les mesures possibles pour contenir l'épidémie. Les deux restaurants contaminés ont été fermés. Le petit Billy Miller, 7 ans, qui a été l'un des premiers touchés, reçoit des doses massives d'antibiotiques. Mais 4 jours plus tard, l'infection continue de ravager son organisme. Pour les médecins, c'est mauvais signe. Cela signifie que cette souche bactérienne a développé une résistance aux antibiotiques. Les parents des enfants malades sont terrifiés. Si la bactérie pénètre dans l'appareil circulatoire, elle peut provoquer un état de choc, voire entraîner la mort. La petite Skyler Hartman, 4 ans, est dans un état critique. Sans le secours d'antibiotiques efficaces, elle ne peut compter que sur ses propres forces. Mais malgré toutes leurs précautions, la shigellose va encore frapper. À une centaine de kilomètres de là, 40 personnes tombent malades au retour d'une kermesse locale. Parmi eux se trouve Kelly Davis, une adolescente de 16 ans qui travaille à la kermesse à temps partiel pour payer ses futures études universitaires. Foudroyée par l'infection, la jeune fille lutte pour survivre. Ces symptômes caractéristiques ne peuvent relever d'une coïncidence. Violentes douleurs abdominales, forte diarrhée et déshydratation. Elle est aussi victime d'une forte fièvre. Son état de déshydratation fait chuter sa tension artérielle. Les médecins sont inquiets. La jeune fille est en danger de mort. Le troisième foyer de Shigellose vient de se déclarer. L'épidémie se propage. Les autorités sanitaires ne parviennent pas à l'enrayer. Chaque année, 25 000 visiteurs se pressent à la kermesse du comté. L'infection bactérienne risque de provoquer une hécatombe dans le public. Les enquêteurs contactent individuellement les 40 malades pour savoir ce qu'ils ont mangé. Tous ont consommé de la nourriture achetée sur divers stands, disséminés sur le champ de foire. Soumis à une inspection sanitaire, tous les stands répondent aux normes d'hygiène et sont donc mis hors de cause. Il ne reste qu'une source de contamination possible que les enquêteurs redoutent par-dessus tout, l'alimentation en eau du champ de foire. Si c'est le cas, des milliers de gens courent un grave danger. Les agents de santé publique effectuent des prélèvements sur plusieurs points d'eau du champ de foire. Ils se rendent ensuite au laboratoire du Bureau de la Santé du Minnesota pour placer les échantillons d'eau en incubateur jusqu'au lendemain. Sous éclairage ultraviolet, une luminescence floue révèle la présence de la bactérie, confirmant les craintes des agents. L'eau du champ de foire est bel et bien contaminée par la Shigella, et la souche bactérienne est identique à celle retrouvée dans les deux restaurants. Les agents de santé sont perplexes. Quel peut être le lien entre l'eau contaminée du champ de foire et les cas constatés dans deux restaurants à 100 km de là? Une enquête plus poussée révèle que les tuyauteries d'eau du champ de foire sont défectueuses. Pour compliquer les choses, une partie des eaux usées fuit dans les canalisations d'eau potable. Cette constatation inquiète les enquêteurs.
Nous croyons que des gens infectés dans l'un des restaurants se sont rendus à la kermesse alors qu'ils étaient probablement malades. Ils ont utilisé les toilettes sur le champ de foire, contaminant ainsi le système d'approvisionnement en eau.
Les autorités sanitaires font émettre un bulletin d'alerte national. L'analyse génétique indique que les bactéries prélevées sur les trois sites proviennent de la même souche, peu commune dans la région. Cela signifie donc qu'elle vient d'ailleurs. Les scientifiques craignent que les cas qui se sont déclarés dans le Minnesota ne marquent le début d'une épidémie de beaucoup plus grande envergure. Le bactériologiste Dave Boxrood envoie par courriel une empreinte génétique de la bactérie au CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies d'Atlanta. À Atlanta, l'équipe de surveillance des pathologies alimentaires tente d'évaluer l'ampleur de la contagion. Les informations concernant l'épidémie du Minnesota sont diffusées sur PulseNet, une base de données informatisée qui recense les pathologies alimentaires aux États-Unis et au Canada. L'empreinte génétique de la Shigella retrouvée au Minnesota est introduite dans la base de données. L'ADN de la bactérie est comparé à celui d'autres souches ayant causé des épidémies en Amérique du Nord.
PulseNet est un outil de communication extrêmement important. Il facilite la comparaison des souches bactériennes. Cela nous a permis de déterminer si la Shigella apparue à Los Angeles était la même que celle découverte à Minneapolis.
Les chercheurs obtiennent la confirmation que la souche du Minnesota est bien identique à celle de la Californie. Et ce n'est pas tout. La Shigella sévit aussi à Boston, dans le Massachusetts, à Marathon Key en Floride et dans les provinces canadiennes de l'Alberta et de l'Ontario. Il s'agit de la même souche bactérienne et chaque fois, la contamination se déclare dans des restaurants. Combien d'autres établissements continuent de propager la maladie à leur insu?
C'était comme une bombe à retardement. Le risque de maladie, voire de mort, continuerait de planer tant qu'on ne remonterait pas à la source même du problème.
Les autorités sanitaires lancent une enquête à l'échelle nationale. Les agents de santé du Minnesota sont toujours sur la piste de la bactérie. Ils retournent dans les restaurants contaminés. L'infection a probablement pour origine un aliment isolé qu'auraient consommé toutes les victimes. Avec l'aide des chefs cuisiniers, les enquêteurs examinent les menus à la loupe. Ils dressent une liste détaillée des ingrédients de chaque recette.
On a décortiqué les menus et les plats pour essayer de trouver ce qu'ils avaient en commun. Dans le cas particulier de la Shigella, on recherchait plutôt des plats qui contenaient des ingrédients crus, comme de la laitue, des tomates ou des oignons émincés. On a refait toute l'analyse des données.
Cette fois, un aliment suspect est identifié, le persil. La plupart des clients malades ont consommé des plats qui en contenaient. Pour les enquêteurs, c'est un indice important. Le persil est un ingrédient qui passe souvent inaperçu.
Le persil est ce que nous appelons parfois un ingrédient caché. En d'autres mots, il arrive sous emballage, il est ensuite haché finement et ajouté à toutes sortes de plats.
Les restaurants en servent à profusion, aussi bien comme ingrédient que comme garniture. À leur insu, les cuisiniers ont servi à leurs clients des plats contaminés par la bactérie toxique.
On a commencé à comprendre ce qui s'était passé. Nous avions affaire à une bactérie commune qui avait été propagée par un même vecteur, à savoir le persil. Et ce persil venait sans doute d'ailleurs parce qu'on n'en cultive pas au Minnesota.
Échappant à tout contrôle, l'épidémie fait rage. 486 cas de shigellose sont confirmés dans 4 États américains et 2 provinces canadiennes. Les enquêteurs doivent à présent découvrir l'origine du persil contaminé.
On a cherché à découvrir d'où venait le persil et comment il était distribué. La contamination pouvait avoir eu lieu à n'importe quelle étape. Nous devions savoir comment elle était survenue pour y remédier.
Les autorités sanitaires collaborent avec la FDA, l'Agence gouvernementale de contrôle des aliments et médicaments, pour établir la traçabilité du persil en reconstituant son parcours.
Comme le persil est un produit qui n'est pas identifié par un code-barre, retracer son parcours était très compliqué pour le restaurant. On ignorait quel lot était en cause et quelle était sa provenance.
On décortique les reçus de commandes de chaque restaurant un à un pour tenter de découvrir d'où vient le persil. Une douzaine de fournisseurs ont livré des aliments aux restaurants de la région. Les recherches promettent d'être longues. En attendant, le persil continue de contaminer de nouvelles victimes chaque jour qui passe. En août 1998, l'Amérique du Nord est frappée par une épidémie de shigellose. Des centaines de personnes sont gravement touchées. les autorités sanitaires ont identifié l'aliment incriminé du persil contaminé. Reste à découvrir où il a été cultivé.
Lorsqu'il y a une épidémie d'intoxication alimentaire, particulièrement d'origine infectieuse, c'est une course contre la montre pour remonter à la source de la contamination et tenter d'enrayer la transmission actuelle ou future de la maladie. On travaille dans une sorte de frénésie.
Le CDC fait une recherche de traçabilité. Il s'appuie sur les enquêteurs de la FDA pour remonter la filière du persil vers l'amont, c'est-à-dire du consommateur au producteur.
La filière alimentaire est beaucoup plus complexe qu'autrefois. Les produits circulent plus rapidement, ils viennent de plus loin. Ils peuvent être transformés, reconditionnés et réexpédiés vers d'autres destinations. Il est très difficile de mesurer l'ampleur du phénomène.
Les États-Unis importent des produits frais du monde entier. Le persil provient d'Amérique du Sud, d'Europe et du Moyen-Orient, ainsi que des pays voisins comme le Canada et le Mexique. Les enquêteurs de la FDA identifient les distributeurs qui ont fourni les restaurants contaminés par le biais des factures. Ils remontent ensuite jusqu'aux exploitations agricoles où le persil a été cultivé. L'une d'entre elles, située au Mexique, a fourni 6 des 7 restaurants contaminés. Une équipe d'enquêteurs se précipite à Villa Verde, une vaste exploitation maraîchère près d'Ensenada, à 160 km au sud de la frontière californienne. Les agents de la FDA et du CDC inspectent le site. 22 hectares de terre sont consacrés à la culture du persil. La ferme produit aussi des tomates, du céleri, de la coriandre, des oignons verts, des radis et de la laitue. Pratiquement toute la production est exportée vers les États-Unis. Les responsables sont convaincus que c'est là que se trouve la clé du mystère. Ils inspectent d'abord le système d'irrigation de la ferme. Une eau polluée est l'une des causes les plus fréquentes de contamination de produits maraîchers. L'eau de la ferme provient de plusieurs puits creusés dans le lit d'une ancienne rivière. Comme ils sont tous très profonds, il est peu probable qu'ils soient à l'origine de la contamination. L'équipe examine ensuite un réservoir d'irrigation situé sur les terrains agricoles. Bien que l'eau paraisse propre à première vue, les agents procèdent à quelques prélèvements. Ceux-ci seront ensuite envoyés aux États-Unis pour y être analysés. Six mois après le début de l'épidémie, la source de la Shigella demeure un mystère. Les agents de santé sont convaincus que la contamination provient de la ferme, mais ils ne disposent d'aucune preuve pour étayer leurs soupçons. En parcourant les différents sites de la ferme, ils remarquent un détail essentiel. Les employés boivent de l'eau embouteillée, plutôt coûteuse. Manifestement, ils considèrent que l'eau de la ferme n'est pas potable. Se peut-il que le persil ait été en contact avec l'eau courante fournie par la municipalité? Dans le hangar de traitement des produits, les agents de santé apprennent que le persil est récolté chaque matin, puis expédié avant 14 heures le même jour. Mais avant l'expédition, il passe dans un refroidisseur hydraulique. Le persil y est aspergé d'eau glacée pour conserver sa fraîcheur pendant le transport et augmenter sa durée de vie dans les étalages. Le refroidisseur hydraulique est alimenté par l'eau de la municipalité. C'est au cours de cette étape que les produits frais ont pu être contaminés. Les agents de santé inspectent les installations hydrauliques qui alimentent la ferme. Un régisseur avoue que le dispositif de chlorage a été vandalisé. Il ne fonctionne plus depuis un mois. En l'absence de chlore, la Shigella a très bien pu proliférer dans les canalisations d'eau potable de la municipalité. La négligence des responsables locaux met en péril non seulement la ville, mais aussi les milliers de consommateurs des produits de la ferme. Les prélèvements d'eau effectués sur l'exploitation sont analysés au laboratoire de la FDA à Washington. Les experts cherchent à déterminer si cette eau non chlorée contient des Shigella et, si c'est le cas, si elles appartiennent à la souche responsable de l'épidémie. Les analyses révèlent qu'il s'agit bien d'une seule et même souche. Les scientifiques de la FDA alertent le CDC et le Bureau de la santé du Minnesota. Le mystère qui tient les autorités sanitaires en haleine depuis 6 mois est enfin résolu. Mais l'épidémie de Shigella constitue un avertissement à ne pas négliger. Selon les époques de l'année, jusqu'à 75% des produits maraîchers vendus aux États-Unis sont importés. Seuls 2% de ces produits sont soumis à des tests d'innocuité, un chiffre dérisoire du point de vue de la santé publique.
Quand des aliments sont produits et distribués massivement à travers le pays et dans le monde entier, un seul problème dans une seule unité de production peut rapidement se propager dans le reste du monde.
S'assurer de l'innocuité des denrées alimentaires est devenu de plus en plus difficile dans l'économie mondialisée d'aujourd'hui. Trouver et éliminer des bactéries avant qu'elles ne franchissent les frontières est un problème à l'échelle mondiale. Les autorités sanitaires se dotent maintenant de nouvelles armes pour faire face à ces nouveaux défis. Mais la menace demeure.
Étant donné que davantage de produits frais viennent d'autres régions du monde, on risque de voir une multiplication des cas de shigellose.
Les victimes de l'épidémie de 1998 ne connaissent que trop bien les effets dévastateurs de la maladie. Tara Parker est restée plusieurs mois en convalescence. Pour les victimes plus jeunes, leur établissement a été plus rapide. Après avoir frôlé la mort, la petite Skylar Hartman est désormais totalement rétablie.
Hey, look at you. I got some good news for you. I like you're doing a lot better.
You're doing much better. Let's get your blood pressure.
Billy Miller, l'un des premiers enfants atteints, a passé plusieurs semaines à l'hôpital avant de recouvrer la santé et de pouvoir rentrer chez lui. D'innombrables malades atteints de shigellose ne se sont jamais signalés. les autorités sanitaires estiment à près d'un millier le nombre de personnes infectées. Fort heureusement, grâce au dévouement des médecins et des agents de santé publique, l'épidémie n'a pas fait un seul mort.